Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
L'émission jeune de Radio Présence.
Bonsoir à tous, bonsoir à vous sur le plateau. Salut Rachel.
Salut Léopold.
Et ce soir, on se retrouve encore avec Mathéo à la co-animation.
Bonsoir.
Pour parler de sexualité, d'amour et de chasteté. Voilà, un grand sujet. Pour ça, on a la joie d'accueillir Marie qui est avec nous et Emmanuel.
Merci beaucoup à vous deux, Emmanuel et Marie, d'être là avec nous ce soir. Emmanuel, vous êtes diacre à la paroisse étudiante de Toulouse depuis septembre, si c'est ça, si je ne me trompe
c'est
pas.
C'est bien ça.
Okay. Et Marie, vous êtes conseillère familiale et conjugale. Vous préparez également des gens au mariage et vous êtes prof au séminaire, c'est bien ça?
Oui, et je suis aussi sexologue.
Ok. Et ben, on a vraiment la joie de vous accueillir ce soir pour discuter d'amour, de sexualité et de chasteté. Je pense que pour commencer un peu ce sujet, peut-être qu'on peut parler un peu des bases et commencer par définir ce qu'est la chasteté, peut-être.
C'est pas une base. Hein. Et on va déjà très, très en profondeur dans le sujet. Alors, je peux commencer. Le père, Emmanuel continuera.
Oui.
En fait, la chasteté... telle que je pourrais la dire d'un point de vue anthropologique, serait, avant d'en donner une dimension spirituelle, c'est de pouvoir respecter la personne dans toute sa dignité, son intégrité, qu'elle soit physique, psychologique, affective, morale, spirituelle. Et donc, du coup, de pouvoir être dans une relation où chacun est vraiment respecté dans cette intégrité, dans sa dignité. Après, quand on en donne une dimension spirituelle, c'est la manière la plus pure de donner et recevoir de l'amour.
Okay.
Je crois que ça se passe de commentaires. J'aurais pas dit mieux. J'aurais bien dit ça, effectivement. Ouais. La chasteté, c'est vraiment cet élan, cet acte que tout homme a pour recevoir l'autre et ne pas se l'accaparer. En fait, c'est accepter l'autre comme il est et ne pas en faire juste un objet.
Oui.
Non, on accueille l'autre vraiment et ça... C'est la chasteté normalement vécue. Effectivement, ça concerne toutes les dimensions de notre être, donc notre corps, notre esprit, notre âme aussi.
Ouais, c'est vrai que je pense que c'est important de le dire, parce que, notamment chez les jeunes, mais je pense que ça peut concerner tout le monde, on peut avoir cette idée que la chasteté, c'est juste une absence de relation sexuelle, alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il faut. C'est important de le rappeler au début de cette émission.
Mais alors justement, comme vous avez dit, donc la chasteté, c'est vraiment le regard qu'on pose sur l'autre et pas du tout, c'est pas du tout la même chose que la continence, ce que disait Rachel sur l'absence de relations sexuelles. Mais alors comment est-ce qu'on vit, nous, la chasteté aujourd'hui, concrètement, en tant qu'étudiant, en tant que jeune pro? Peut-être qu'il y a des jeunes mariés aussi qui nous écoutent, ou des mariés, des vieux mariés, enfin, qui veut, comment on vit dans notre situation la chasteté?
Marie, je commence.
Alors, c'est une question déjà assez poussée, dans le sens où, je dirais, avant de parler de la chasteté, c'est déjà comment, en tant qu'homme et en tant que femme, on vit sa propre affectivité, sa propre sexualité, c'est-à-dire la relation à soi-même. En fait, la sexualité, ça n'est pas que l'expression sexuelle de soi-même. La sexualité, c'est la manière dont, dans notre féminin et notre masculin, nous sommes au monde. Et donc, ça demande déjà de se dire, mais quelle est la relation que j'ai avec mon corps, avec mes émotions, avec ma façon d'aimer, d'être aimé, et donc dans mes relations avec les autres, avec le monde, et avec moi-même d'abord. Parce qu'on parle de chasteté vis-à-vis de l'autre, mais on peut ne pas être chaste avec soi-même. Donc, c'est comment on a déjà, on va se fortifier à l'intérieur de soi pour pouvoir mieux se donner et mieux recevoir l'autre. Et ça, quand on est jeune, je dirais qu'on est un peu en découverte de tout ça, en construction, mais je vais rassurer les jeunes, on est en construction toute sa vie. Donc, c'est en permanence qu'on chemine et qu'on continue d'apprendre comment aimer, sachant qu'on est appelé à aimer, c'est notre chemin de sainteté, à aimer comme le Christ nous a aimé, nous a montré le chemin, et que ça, c'est toute notre vie que nous avons à nous convertir. Et la sexualité est un lieu de conversion, que l'on soit célibataire, qu'on soit marié ou qu'on soit dans une vie consacrée.
Waouh. C'est beau.
Et oui, tout à fait. Et Effectivement, il y a dans nous, notre Église, notre Église catholique, la chasteté se vivra différemment selon notre état de vie. Donc, il y aura quelques spécificités, mais tous nous sommes appelés à être chastes. Donc,
oui.
Comme tous nous sommes appelés à être saints, ben, en fait, tous nous sommes appelés à être chastes aussi. Voilà, mais ça se manifestera différemment selon notre état de vie. Donc, si on est marié, si on est célibataire, voilà, si on est religieux, religieuse,
oui.
prêtre. Pape, bon voilà.
Il n'y en a qu'un.
Oui, c'est ça, c'est pas amené à tout le monde, ça.
Du coup, on peut poser la question peut-être de la pertinence de la doctrine de l'Église par rapport à la question de la sexualité. Et est-ce que la doctrine a évolué avec le temps?
Ah oui.
En fonction de l'époque. Parce que je sais que, par exemple, jusqu'au XIe siècle, on avait des prêtres qui avaient des enfants avant leur ordination. Donc, on a eu une évolution de la doctrine. Comment aborder ce sujet?
Alors, déjà, il faut bien distinguer parce qu'il y a deux disciplines, en tout cas, concernant des prêtres qui ont des enfants. Il y a l'Église catholique latine, donc nous, voilà, et l'Église catholique orientale. Dans l'Église catholique orientale, il y a des hommes mariés qui peuvent devenir prêtres. Voilà, ce n'est pas des prêtres qui peuvent devenir, qui se marient, hein, c'est des hommes mariés qui peuvent devenir prêtres. Donc, ils ont des enfants et ils peuvent devenir prêtres aussi, ce qui n'est pas pareil pour la discipline du sacerdoce dans l'Église latine, où là, on demande le célibat. Donc déjà, c'est deux manières de voir différentes. L'Église a jugé bon de conserver ces deux manières de voir différentes et de faire, on se dirait, comme deux richesses. D'accord ? Dans l'Église catholique orientale, toutefois, les évêques, ce sont des prêtres qui n'étaient pas mariés avant. Donc, c'est toujours des célibataires. On voit, il y a quand même un ordre. Bon, donc c'est vrai. Je ne prendrai pas le risque de m'aventurer sur l'histoire, en fait, l'évolution historique. Parce que je pense qu'elle est assez complexe. Et ça, peut-être dans une autre émission ou une autre fois, faire venir un historien de l'Église. Qui sera peut-être plus juste que moi sur cette évolution pour les prêtres qui ont des enfants.
Oui.
Voilà.
C'est vrai que c'est beau et c'est intéressant, même si je pense que pour certains c'est encore un peu tabou et c'est dommage. Mais c'est vrai que l'Église a un parti pris qui est fort sur la sexualité et je pense que ça demande aussi beaucoup ça peut être parfois difficile de le comprendre, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et je sais pas, peut-être que Marie, est-ce que vous avez eu je suppose que vous avez eu l'occasion, vous avez l'habitude d'entendre des gens vous demander des conseils, des jeunes qui soient en couple ou non, sur comment gérer cette chasteté au quotidien en tant que chrétien.
Alors, avant de parler de chasteté, la question qui se pose, c'est comment vivre la sexualité. Et on me pose souvent la question en permis défendu. Et quand on pose la question comme ça, on piège la question et du coup, la réponse devient très compliquée. Ce n'est pas une question de permis défendu.
Oui.
On est sur, je le disais tout à l'heure, un chemin. C'est-à-dire, l'Église, elle invite à vivre une sexualité pour, dans le cadre d'abord d'une relation d'amour, en vue d'être féconde. C'est une relation qui est appelée à être féconde, d'un point de vue concret par l'accueil d'enfants et d'un point de vue relationnel et même spirituel par une action dans le monde qui va rayonner de l'amour. Le couple est appelé à rayonner l'amour, l'amour de Dieu pour son peuple, l'amour du Christ pour son Église. Ça, c'est la fécondité propre du sacrement de mariage. Mais un prêtre qui va être ordonné et qui ne va pas vivre une sexualité sexuelle est quand même appelé à rayonner à travers l'homme qu'il est et à travers son appel sacerdotal aussi cet amour en aimant l'Église, en devenant époux de l'Église. Et les religieux et les religieuses sont appelés aussi. Et tout ça, c'est une façon aussi de vivre sa sexualité parce que c'est avec tout ce que l'on est, le corps y compris. Simplement, c'est pour ça que je faisais la différence tout à l'heure, il y a l'expression sexuelle de la sexualité et l'expression relationnelle et affective. Donc quand on est en couple, on est appelé à vivre la sexualité dans toutes ses dimensions. Et ça demande un apprentissage qui dure toute la vie. La sexualité, quand on a 25, c'est pas la même que quand on a 60 ans.
Oui.
Ça demande aussi, d'abord, d'apprendre à se connaître et à connaître l'autre dans une dimension intérieure. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de difficultés qui arrivent dans la sexualité des couples quand on cherche à ne donner que le corps en oubliant le cœur, les émotions, la dimension vraiment très profonde de chacun. La sexualité, dans ces cas-là, elle marche difficilement. Donc, on voit bien que c'est important de prendre le temps de se connaître. Et c'est ce que l'Église invite. Voilà. C'est d'abord apprenez à vous connaître pour que toute la dimension charnelle prenne complètement son essor, son plein épanouissement, parce qu'il y aura deux cœurs qui auront appris à se parler. Et les corps se parleront beaucoup plus facilement après.
Oui.
Et est-ce que... J'ai deux questions un peu dans ce que je dis, c'est est-ce que on peut atteindre donc cette forme de connexion, enfin c'est juste cette connaissance de l'autre hors mariage où il y a vraiment cette dimension sacramentelle qui fait que vraiment on se connaît pleinement déjà avant le, je veux dire avant de avant l'acte sexuel et si oui alors bah pourquoi est-ce qu'on attend le mariage pour avoir des relations sexuelles?
D'un point de vue purement humain, une relation sexuelle, elle sera bonne avant ou après le mariage. Voilà. À partir du moment où les partenaires s'entendent bien, voilà. Mais il y a une chose fondamentale quand on est croyant, c'est que le sacrement vient consacrer cette union. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire que il y a une rencontre des corps et de cœurs pour le plaisir, mais pas que. Il y a une dimension transcendante que les conjoints sont appelés à vivre pour vivre une union, une communion au-delà même de ce qu'ils sont en train de vivre dans leur relation sexuelle. Et ça, c'est la consécration par le sacrement de mariage. Donc un couple qui ne se marie pas ou un couple qui n'est pas croyant peut vivre des relations sexuelles, et je l'entends, hein, où ils ont la sensation de vivre vraiment quelque chose de très uni, même de communion, ils utilisent le mot. La différence avec le sacrement, c'est que c'est consacré dans l'amour de Dieu. Et donc, il y a vraiment un appel particulier pour le couple à ce moment-là, à vivre son amour et à le faire grandir, jusque dans le partage sexuel.
Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair. On va faire une petite interlude musicale. On va écouter Amoureux de mon âme de Corinne Lafitte. Voilà, c'est des une chanteuse judéo-chrétienne. Et voilà, Amoureux de mon âme... On parle de sexualité, d'amour, c'est très beau dans le mariage, mais on s'attache avant tout au Christ.
Attire-moi
C'était Amoureux de mon âme de Corinne Lafitte. Et puis bah on reprend, c'est parti.
Alors je vais m'adresser à l'abbé Emmanuel. Comment réagir dans une relation où le choix de la chasteté n'est pas compris? Et est-ce qu'il faut forcément être un chrétien pour vivre la chasteté à deux?
Alors, qui dit chasteté dit aussi liberté. Dans un couple chrétien qui veut vivre la chasteté, si on est là pour parler de sexualité, une vraie sexualité bien réussie, c'est une sexualité où les deux sont pleinement libres. Donc si on a un qui ne compte pas trop la chasteté, qui veut vivre la chasteté, alors bien sûr on entend est-ce que c'est un couple marié ou pas, ça va se manifester différemment. Il faudra d'abord beaucoup de dialogue, moi je dis, pour pouvoir aller voir mais qu'est-ce qui cloche en fait, celui qui n'accepte pas en fait de vivre la chasteté. Et puis parfois, la vie, ce n'est pas tout noir, tout blanc. Des fois, il y a aussi beaucoup de nuances de couleurs entre les deux. Avant d'arriver à un terrain d'entente, et comme le disait très justement Marie, tout ça, c'est un chemin. Une sexualité bien réussie, c'est un chemin. Une chasteté bien vécue ensemble, c'est aussi un chemin. Et parfois, ça peut être un chemin assez difficile. Voilà, alors est-ce que, la deuxième question, pardon, c'est de savoir est-ce qu'on a besoin d'être chrétien pour parler de chasteté. Alors, je ne sais pas si ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas de connaissance vraiment de la doctrine chrétienne, si ils emploieront le mot chasteté pour parler, proprement parler, mais je pense que peut-être qu'ils peuvent saisir un concept de ce qu'est la chasteté à travers peut-être le respect de l'un de l'autre, l'écoute, la bienveillance.
Ça paraît être une loi assez naturelle quand même.
Peut-être. Oui, ça paraît. Mais je pense que parfois, il faut avoir quelques jetons pour nourrir notre intelligence, pour mieux comprendre comment vivre aussi la chasteté, comment bien intégrer ça dans notre vie.
Et en parlant du coup de ces différences d'avis ou de perception, si on a un couple avec un chrétien, un non-chrétien, je lance la bombe. Moi, je pense notamment à des catéchumènes, des gens qui se convertissent, qui vivent en couple, et qui voudraient du coup découvrir un peu ce que dit l'Église à ce sujet, parce qu'ils commencent à s'attacher à l'Église. Comment on leur dit ils vivent ensemble, mais ils peuvent déjà habiter ensemble et tout. Comment est-ce qu'on amène cette idée de peut-être qu'il est bon d'attendre le mariage, enfin l'Église dit qu'il est bon d'attendre le mariage pour vivre ensemble, pour avoir des relations sexuelles. Comment on fait, parce que peut-être ils sont très heureux ensemble et je sais pas, la personne qui ne se convertit pas, si en face il dit je voudrais qu'on arrête de avoir des relations sexuelles, qu'on ne vive plus ensemble, comment il va le prendre quoi, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la rupture du couple, je suis pas sûr. Comment on aborde ces sujets?
Ce que vous abordez, c'est que de toute façon, ce sont des situations qui sont maintenant à 90% pendant les préparations au mariage, puisque les couples arrivent, ils vivent déjà ensemble depuis très longtemps, ils ont des enfants. Donc le principe, c'est absolument pas de remettre en question ce qu'ils ont déjà construit. L'Église est là pour soutenir la construction, pas pour favoriser la destruction. Par contre, c'est de les faire réfléchir. Voilà, jusqu'à maintenant, vous avez vécu votre sexualité, votre relation, parce qu'on va parler de toutes les dimensions de la relation, et on va leur proposer d'avoir un approfondissement de leur perception, de leur représentation et bien sûr d'un vécu. Et ça m'arrive pendant les préparations au mariage de proposer au couple pendant un mois, deux mois avant le mariage de ne plus avoir de relation sexuelle, d'avoir une forme de continence, parce qu'un couple n'est pas appelé à l'abstinence, hein. Donc une continence pendant quelques temps de manière à se recentrer sur la relation et avoir une relation sexuelle après l'échange de consentement, parce que je rappelle que le sacrement de mariage n'est réellement complètement accompli et valide qu'avec une relation sexuelle. Donc du coup de vivre pleinement l'échange de consentement puis la relation sexuelle pour se redonner l'un à l'autre à la suite de cette consécration du lien. Voilà. Et je vois qu'il y a certains couples qui sont assez sensibles à cette proposition, qui peut paraître très surprenante, et en même temps qui permet quelquefois de de se redécouvrir, de se relier autrement.
Un peu en rapport avec ça aussi, c'est vrai que cette émission elle s'adresse quand même beaucoup aux jeunes, et je pense qu'il y a des jeunes qui nous écoutent qui ont eu des relations sexuelles avec la personne avec qui ils sont ou pas, mais en tout cas des couples dans lesquels les deux parties ont ce désir de chasteté, ont cette envie, mais voilà, qui peuvent rencontrer des difficultés. Comment les accompagner? Est-ce qu'il y a des habitudes de prière, des habitudes à prendre tout court pour faciliter cette démarche?
Alors, la première, je reprends ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, c'est la notion de liberté. Parce que même une bonne obéissance se veut libre.
Mm-hmm.
Donc, quel serait le sens pour eux de devenir continent? Il y a une finalité qui doit être commune. Et je pense que c'est un chemin qui est très intéressant. Et en même temps, je dis attention de ne pas y aller n'importe comment, parce que ça peut créer des troubles dans la sexualité après le mariage.
Oui.
Donc, on y va, on décide ensemble quelles sont les motivations, quelles sont les raisons, quelles finalités on poursuit ensemble, quels sont les moyens qu'on se donne, combien de temps ça doit durer. Voilà, je pense que c'est important de tenir compte des réalités de l'un et de l'autre, et aussi de la manière dont le couple s'est construit. Et c'est vrai que là, ça vaut le coup d'être accompagné, pour maintenir une bonne entente et continuer de construire.
Oui. Et je ne sais pas, peut-être la Bémanuelle, vous avez des habitudes d'un point de vue aussi chrétien, peut-être théologique, je ne sais pas, des conseils de prière aussi à donner à un couple qui a envie de marcher dans ce chemin.
Alors déjà, comme on dit, c'est aussi une grâce quand même qu'on reçoit du Seigneur. Donc déjà demander le secours de l'Esprit Saint d'abord, parce que prendre une habitude nouvelle, quand on l'a pas, c'est pas forcément évident humainement parlant. Je veux dire, si on veut faire un régime, dès qu'on va avoir un paquet de bonbons, on a envie de sauter dessus, mais c'est pareil. Surtout s'il y a une phase de privation, à un moment donné, il faudra quand même avoir un bon secours spirituel d'abord, s'ancrer dans la prière.
Oui.
Et puis voir, vraiment intérioriser pour voir quels sont vraiment nos combats, nos faiblesses aussi, qu'est-ce qui peut nous faire chuter, les moments propices qui sont des moments de tentation, donc les éviter. Par exemple, aussi, c'est bête, oui. Si on aime trop le coca, on a jusqu'à pas acheter de coca, je dirais, ou ne pas passer dans le rayon.
Oui.
Bon, voilà. Et puis, aussi, c'est apprendre à avoir d'autres activités, par exemple faire du sport pour pouvoir se changer les idées, avoir une hygiène de vie saine, une hygiène de vie qui est saine, oui, c'est bien ça. Après, je pense qu'il y a, c'est chacun qui se connaît aussi, mais oui. Un couple qui a envie de vivre ça, oui, c'est bien qu'il se fasse accompagner. S'il veut aussi, il peut demander conseil à des gens qui, comme Marie, peut-être une expérience dans le domaine, ou aussi, à des religieux, religieuses, des prêtres qui sont aussi formés. Certains sont formés sur ce domaine. Ou au moins, même s'ils ne sont pas formés, pour avoir quelques conseils spirituels.
Oui.
Voilà. Mais le tout, c'est de ne pas brûler les étapes. Et comme dit Marie, c'est important d'aller pas à pas pour ne pas détruire quelque chose et aller vers le chemin du mieux avec la grâce de l'Esprit Saint. Toujours, voilà.
Merci beaucoup Emmanuel et Marie pour vos réponses, pour cet échange qui était vraiment très intéressant. On va terminer cette émission sur la chronique de Louise. On passe à Sanctus.
Sanctus. La chronique de Louise.
Aujourd'hui, pour le thème du jour, je me suis dit que ça pouvait être bien de faire un couple. Parce que l'idéal de la sainteté, elle peut se vivre donc dans ce modèle de vie et surtout dans le mariage. Et ce couple, j'ai découvert que c'était le premier où ils avaient été bien heureux ensemble. Donc c'est Maria et Luigi Beltram Quattrocci, des Italiens. Donc Luigi et Maria, ils se rencontrent à Rome et ils sont d'abord amis et ils discutent beaucoup. En effet, Luigi, il n'est pas croyant et Maria, elle a déjà une foi qui est assez profonde et c'est elle qui va l'entraîner vers la foi. Et c'est comme ça qu'ils vont se fiancer aussi. Et puis se marier. Ils vivront ensemble un demi-siècle de vie commune et ils auront 4 enfants, dont 3 seront rentrés dans les ordres et une sera vénérable. Donc Luigi, il est romain et avocat de formation. Il témoigne discrètement de sa foi au travail, dans son métier et par son dévouement et son amour de la patrie et sa rectitude. Et il se veut incorruptible et aussi au moment du fascisme en Italie, comme il a refusé de prendre sa carte du parti, son avancement, il est un peu stoppé. Mais après la seconde, enfin pendant la Seconde Guerre mondiale, il cache aussi des Juifs avec sa femme et d'autres personnes poursuivies par le régime en place. Maria, elle, elle est auteure. Elle va publier plusieurs livres qui rassemblent des idées et des conseils sur l'éducation et la vie matrimoniale, mais aussi sur l'éducation des enfants, pour répondre à tous les défis que peuvent rencontrer les familles. Leur vie conjugale, elle va s'enraciner dans la foi. Ils prient, ils vont à la messe quotidiennement ensemble. Et c'est comme ça que commence leur journée. Et ils ont aussi ensemble un engagement social et apostolique. Ils vont participer dans le lancement d'une pastorale familiale à Rome et jouer un grand rôle dans l'implantation du scoutisme en Italie. Donc parmi les défis qui vont rythmer leur mariage, il y a la grossesse de leur 4e enfant. Maria, elle a des hémorragies durant la grossesse et même si on est en 1913, le gynécologue, il voit qu'une seule solution, c'est l'avortement. Donc Luigi et Maria, ils regardent le crucifix dans le bureau du gynécologue et ils se disent que bah non, c'est pas possible. Et au final, l'accouchement se passe bien, mais ce sera donc leur dernier enfant. Et après, ils vont dans la chasteté. Alors que leurs enfants sont jeunes aussi, Maria, elle est frappée par une dépression et un épisode dont elle pense quand même qu'elle va pas s'en sortir. Mais finalement, elle réussit peu à peu à remonter la pente, notamment grâce à la prière. Et ensuite, ils vont aussi également s'engager ensemble lors de la Première Guerre mondiale auprès des blessés, notamment. Luigi, il meurt en 1951, mais Maria lui suivra un petit peu 14 ans plus tard avant de s'éteindre à son tour. Et lors de leur cérémonie de béatification, le pape avait ajouté « Nous avons aujourd'hui une confirmation singulière du fait que le chemin de sainteté accompli ensemble comme couple est possible, beau, extraordinairement fécond et qu'il est fondamental pour le bien de la famille, l'Église et la société. » Donc moi, ce qui m'a marqué, c'est l'engagement de leur couple, c'est comment ils se sont portés l'un et l'autre pour faire fructifier leur mariage à travers de leurs deux métiers, pour Maria comme auteur, puis pour Luigi aussi comme avocat, en s'engageant pour la société, mais aussi en éduquant leurs enfants dans la foi. Voilà, donc c'est ce qui m'avait particulièrement marqué.
Merci beaucoup, Louise. Juste avant de terminer, vous avez sur YouTube un film qui s'appelle Une seule chair qui a été fait par des sexologues chrétiens. Il y a des protestants et des catholiques. Et voilà, c'est un super film qui complétera vachement tout ce qu'on a dit jusque-là.
Merci beaucoup à vous tous ce soir d'avoir été là pour cet épisode. Merci Emmanuel, merci Marie. On vous propose de retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site de Radio Présence. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un épisode sur le partage entre les différentes religions. Bonne soirée !